C'est une joie, un plaisir et une grâce que nous avons, Seigneur, de nous retrouver auprès de toi à tes pieds. Nous désirons, Seigneur, nous placer devant toi et te demander, Seigneur, de nous instruire, Seigneur. Toutes les fois que nous te les demandons, tu les fais. Et ce soir, nous réitérons encore notre demande et nous prions, Seigneur, que tu nous donnes en plus un cœur sincère, un cœur pour t'obéir, un cœur pour t'écouter. Débouche nos oreilles, Seigneur, afin que nous écoutions comme des disciples. Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous sachions voir, Seigneur, le sens des Écritures et que notre intelligence soit ouverte aussi, Seigneur, pour que nous comprenions, oh Dieu, ce que tu nous communiques. Béni sois-tu pour ton serviteur ce soir, Seigneur. Il a besoin des qualifications particulières, spéciales, Seigneur, en ce moment. Toute cette heure, Seigneur, donne-lui de bien faire ce qu'il doit faire, Seigneur, et de glorifier ton nom au travers de toute la canalisation des pensées, des idées des uns et des autres, Seigneur. Donne-nous ce soir ce dont nous avons vraiment besoin. Au-delà, Seigneur, de ce que nous désirons, toi, tu connais les vrais besoins, rencontre-les, Seigneur. Merci pour les frères et sœurs qui vont nous rejoindre. Tous ensemble, nous nous dédions à toi, nous nous remettons entre tes mains. Merci pour ton esprit qui nous remplit, qui nous conduit, qui nous dirige et qui va tout faire, Seigneur, pour donner gloire à ton nom. Sois béni, notre Dieu, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions, Père. Amen.
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 Merci beaucoup pour la prière, Papa José. Nous prenons bienvenue, frères et sœurs, dans la présence du Seigneur autour de sa parole. Nous allons prendre, après la prière introductive à notre rencontre ce soir, nous allons prendre le texte qui nous est recommandé aujourd'hui. Nous sommes en Ézéchiel, au chapitre 43, verset 13 jusqu'au verset 27, donc jusqu'à la fin du chapitre. Sœur Agnès, est-ce que tu peux nous lire le texte?
Merci. Je lis dans Louis II. Voici les mesures de l'autel d'après les coudées dont chacune était d'un palme plus longue que la coudée ordinaire. La base avait une coudée de hauteur et une coudée de largeur. Et le rebord qui terminait son contour avait un empan de largeur. C'était le support de l'autel. Depuis la base sur le sol jusqu'à l'encadrement inférieur, il y avait deux coudées et une coudée de largeur. Et depuis le petit jusqu'au grand encadrement, il y avait quatre coudées et une coudée de largeur. L'autel avait quatre coudées et quatre cornes s'élevaient de l'autel. L'autel avait 12 coudées de longueur, 12 coudées de largeur, en formait un carré par ses quatre côtés. L'encadrement avait 14 coudées de longueur sur 14 coudées de largeur à ses quatre côtés. Le rebord qui terminait son contour avait une demi-coudée. La base avait une coudée tout autour et les degrés étaient tournés vers l'Orient. Il me dit, Fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici les lois au sujet de l'autel. Pour le jour où on le construira, afin d'y offrir les holocaustes et d'y répandre le sang. Tu donneras aux sacrificateurs, aux Lévites qui sont de la postérité de Tsadok et qui s'approchent de moi pour me servir, dit le Seigneur. L'Éternel, un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu prendras de son sang et tu en mettras sur les quatre cornes de l'autel, sur les quatre angles de l'encadrement et sur le rebord qui l'entoure. Tu purifieras ainsi l'autel et tu en feras l'expiation. Tu prendras le taureau expiatoire et on le brûlera dans un lieu réservé de la maison en dehors du sanctuaire. Le second jour, tu offriras en expiation un bouc sans défaut. On purifiera ainsi l'autel comme on l'aura purifié avec le taureau. Quand tu auras achevé la purification, tu offriras un jeune taureau sans défaut et un bélier du troupeau sans défaut. Tu les offriras devant l'Éternel, les sacrificateurs jetteront du sel sur eux et les offriront en holocauste à l'Éternel. Pendant 7 jours, tu sacrifieras chaque jour un bouc comme victime expiatoire. On sacrifiera aussi un jeune taureau, un bélier du taureau, l'un et l'autre sans défaut. Pendant 7 jours, on fera l'expiation et la purification de l'autel, on le consacrera. Lorsque ces jours seront accomplis, dès le 8e jour et à l'avenir, les sacrificateurs offriront sur l'autel vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et je vous serai favorable, dit le Seigneur l'Éternel. C'était la parole du Seigneur.
Rendons grâce à l'Éternel Dieu des armées.
Merci beaucoup, ma sœur Agnès, pour la lecture. Si vous avez pris le train en route, que ce soit sur le plateau ou à la radio, nous venions d'écouter la lecture en Ézéchiel au chapitre 43, du verset 13 jusqu'au verset 27. Nous continuons la construction, en fait, les mesures qui ont été données pour le temple. Et là, l'autel va être le lieu le plus culminant. Je dirais même la raison d'être du temple. Parce que sans autel, le temple n'aura pas sa raison d'être. Le peuple de Dieu doit venir pour offrir, pour adorer, et ces lieux, là où l'autel va être construit, toutes les mesures sont données, et nous voyons, quand vous regardez, pour ceux qui ont des Bibles d'études, dans certaines Bibles, on donne même le schéma comment l'emplacement de l'autel est juste dans le parvis intérieur du temple que l'autel va être bâti. Et l'autel, c'est là où le peuple de Dieu vient amener les holocaustes auprès du prêtre, et c'est le prêtre qui va offrir à Dieu. Mais notre texte va nous montrer, parce que mettons-nous en tête, frères et sœurs, que ce temple dont nous sommes encore en train de parler n'est pas encore construit. Dieu est en train de montrer une vision à son serviteur, comment les choses se dérouleront. Alors, notre première partie va aller du verset 13 jusqu'au verset 17. Là, on va nous montrer juste la construction de l'autel. Et ces deux questions peuvent toujours nous garder à l'esprit. Question 5, question 8. Y a-t-il une promesse dans les deux parties que nous allons exploiter? La question 8, y a-t-il d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? Et nous nous poserons toujours la question 7. Quelle vérité Dieu nous donne dans ce texte? Quelle vérité Dieu nous donne dans ce texte? Et notre deuxième partie va aller du verset 18 jusqu'à la fin. Là, on va nous montrer comment l'autel va être purifié pendant 7 jours. Et c'est après les 7 jours qu'on peut maintenant offrir les holocaustes. On peut maintenant faire l'aspersion du sang. Voilà de quoi s'agit-il, frères et sœurs, dans ce texte que nous allons méditer ensemble. Nous allons dans un premier temps attaquer la construction de l'autel. Et même dans notre premier verset, le verset 13, on nous donne même la raison d'être, pourquoi il va être construit. Nous allons méditer ces quelques versets. Après, nous attaquerons la deuxième partie qui va être la façon de purifier l'autel et la façon même d'offrir. Voilà, quand je jette un coup d'œil à mon tableau, je ne vois pas soit un revenant ou une revenante, soit une nouvelle personne. Sauf à l'écran, je vois le frère Médard qui prend sa bonne habitude de regarder le tableau qui est là. C'est ça, non, frère Médard? Ok, cela dit, frères et sœurs, nous pouvons maintenant demander la parole pour attaquer la première partie. Et la parole vous sera donnée. Oui, papa José du Canada, tu peux aller de l'avant, s'il te plaît.
Oui, merci beaucoup pour la parole, papa Céleste. En fait, je suis juste content de voir que toutes les dimensions de l'altar sont données. Vous avez raison de mentionner que c'est l'altar, les lieux où les sacrifices, où les sangs, le sacrifice doit être apporté et aspergé. C'est le centre même, c'est le cœur du temple, c'est la raison d'être du temple. S'il n'est pas là, on ne parlerait pas du temple. Nous verrons plus loin lorsque le Seigneur dit au prophète que tu parleras aux sacrificateurs, aux lévites, tu leur diras, tu leur donneras ces mesures. En d'autres termes, cet altar est fait selon les dimensions ou selon le modèle qui émane du ciel, un peu exactement comme Dieu l'avait dit à Moïse. L'intérêt pour moi de connaître cela, de comprendre cela, c'est lorsque nous ferons allusion au sacrifice suprême de Christ. Ceci nous donne l'idée de comment ce sacrifice sera présenté dans le ciel, comment il sera offert. La Bible nous dit dans Hébreux que Christ est entré dans les lieux trois fois saints, les lieux qui n'ont pas été construits de main d'homme, et il n'y est pas entré avec le sang des taureaux ou de bouc, mais il y est allé avec son propre sang. Ainsi, c'est ce qui me donne de lire la première partie, essayer de comprendre comment ça se trouve, parce que le modèle est typiquement le même que celui qui se trouve dans le ciel. Voilà, juste pour commencer. L'idée selon laquelle j'ai eu en tout cas à cœur de bien lire ce texte afin de comprendre ce que Christ devra faire dans la suite. Voilà.
Merci beaucoup, papa José. C'est vraiment l'image de ce qui se réalisera un jour éternellement. Et cette image s'est accomplie un jour. C'est en Jésus-Christ que le sacrifice complet a été en réaliser. Et nous sommes en train de voir, frères et sœurs, que Dieu ne fait rien sans planifier. Dieu ne fait rien sans planifier. La venue même du Seigneur sur la terre, c'était planifié. et même une simple construction du temple a été planifiée par Dieu et il a montré à son serviteur comment les choses se feront. Voilà comment notre Dieu continue à agir même aujourd'hui. Il planifie beaucoup, beaucoup de choses dans notre vie et un jour nous les verrons s'accomplir parce que les projets qu'il a, ce sont des projets de paix et de bonheur. Il a réellement de grands projets, comme nous voyons ces grands projets qu'il montre à son serviteur. Merci beaucoup, pasteur. Je donne la parole à Papa José des États-Unis.
Merci beaucoup, pasteur. Bien-aimé, encore une fois, nous voyons un Dieu qui est organisé. La première partie qui a concerné le temple, le plan de ce grand temple. Il y avait des mesures partout, des mesures, murs, les épaisseurs, l'angle, tout et tout était mesuré. Et ici, nous sommes devant l'autel. L'autel aussi a des mesures. Tout est mesuré. C'est pour nous montrer que Dieu, notre Dieu, est un Dieu de l'ordre.
Amen.
Même si nous voyons quelque chose que nous pouvons dire, bon, c'est banal, on peut prendre un bouc, on le dépose sur le morceau de bois, et puis on coupe. Pourquoi des mesures? Oui, il est comme ça, et c'est comme ça qu'il veut que nous le servions. Que nous le servions dans l'ordre, ce n'est pas dans le désordre. Ce n'est pas que chacun fasse ce qu'il veut ou comme il veut, mais nous suivons l'ordre, et cet ordre nous trouvons dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous avons tout ce que Dieu veut que nous fassions pour notre vie et pour sa gloire. Merci.
Merci, Papa José. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et que tout se trouve dans les Écritures saintes que nous sommes en train de méditer jour après jour. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Papa Thomas.
Oui, je suis toujours à la partie ici de 13 à 17 sur l'autel. Et je vois que la reconstruction ou la construction de l'autel est très importante par rapport à l'œuvre de Dieu. Parce que quand je regarde l'exemple de Élie, quand il avait confronté les prophètes de Baal et les autres prophètes, ils étaient presque 850, il y avait 400 de Baal et 450 de l'autre faux prophète qui mangeait la table de Jézabel. Ce qu'il avait fait, quand les autres ont échoué, la Bible dit que quand il s'est approché, il a rétabli l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il a pris des choses, des pierres et tout ça, il a reconstitué, on a commencé à mettre de l'eau. L'autel de l'Éternel devrait être rétabli pour que il fît le miracle qu'il a fait quand il a invoqué le feu est venu. Et ici, on voit que il y a aussi l'autel qui doit être rétabli. Je pense qu'aujourd'hui aussi, l'autel, l'établissement de l'autel, c'est même l'Église du Christ elle-même qui doit avoir de l'importance dans notre vie. Pour que le Seigneur agisse, il faut que son autel soit encore respecté. Il faut encore que le pasteur soit encore accepté, le message du pasteur soit respecté. Il faut la valeur de l'Église, la valeur du message, la valeur du ministère. Il faut que dans le service du Seigneur, quand nous travaillons, qu'il y ait le respect de l'autel, parce que c'est là où on va faire les sacrifices, c'est là où on va asperger le sang. Donc, dans l'Église aujourd'hui aussi, quelle est la place que je donne à l'autel de Dieu, là où le Christ a donné sa vie, l'Église pour laquelle le Christ est mort? Est-ce que je donne de la valeur à l'œuvre de Dieu, le FIMES, notre étude biblique, notre Église, les réunions de prière? Est-ce que ça a de la valeur à mes yeux? Parce que ici, je vois, il y a une reconstruction, il y a des instructions pour que l'autel soit établi. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai du respect par rapport à l'institution, l'Église que le Christ a bâtie par son Christ? Merci.
Merci, merci, Papa Thomas. Nous devons avoir du respect de la présence de Dieu, du respect de l'œuvre de Dieu, du respect des serviteurs de Dieu. Ça, c'est une des qualités des personnes qui connaissent comment Dieu travaille. Et là, nous sommes en train tous de méditer comment Dieu donne beaucoup, beaucoup d'importance à l'autel. Nous allons le voir dans la deuxième partie. Il donne beaucoup d'importance à l'autel. Ce n'est pas pour rien. Parce que l'endroit où sa présence est invoquée, sa présence élevée, exaltée, ce lieu doit être vraiment vénéré. Merci beaucoup, Papa Thomas. Papa José, je vais te donner la parole tout à l'heure. Je voulais dire quelque chose vers le verset 15, le verset 16 et 17. Quand on nous montre les mesures de l'autel, on va nous dire que le foyer a 4 coudées de hauteur. Il est surmonté de 4 cornes. Mais ce foyer forme un carré. Le foyer forme un carré et que je suis enseignant de mathématiques. Quand on parle du carré, on a toujours parlé du carré parfait. Quand on voit le carré, on voit la perfection. Donc Dieu, quand il veut que son travail se fasse, il veut qu'on travaille de mieux en mieux à son œuvre. C'est là que je vois même l'autel, le foyer, la base, c'est un carré. Et le carré, en mathématiques, on l'appelle le carré parfait. C'est la perfection même quand on parle du carré. Merci beaucoup, Papa José, et tu as la parole.
Merci encore, Papa Salé. En écoutant tous les commentaires, je me dis, à quel endroit est-ce que j'ai négligé de respecter la mesure? Dieu est tellement méticuleux, nous l'avons vu. Le pasteur José a dit tout à l'heure qu'effectivement, on a d'abord vu tout le temple, l'enceinte, l'extérieur, l'intérieur, les murs, même les fenêtres, l'épaisseur des murs, tout était mesuré, tout était présenté sans la moindre négligence. Et je me dis, aujourd'hui, si Dieu nous a fait parvenir tous ceci, frères et sœurs, il doit y avoir une raison. Dieu veut que son œuvre soit très bien faite, que toutes les mesures soient respectées. Et je me dis, quelque part, ai-je manqué dans mon service, dans ma manière de faire? Où est-ce que j'ai fauté? Où est-ce que j'ai négligé? Où est-ce que j'ai manqué de respecter la mesure donnée par Dieu? Et si Dieu prépare tout, en fait, c'est comme un plan d'un architecte. Et lorsque la construction arrive, la construction doit résolument respecter les mesures, les dimensions qui sont sur le plan. Et dans le travail, je ne peux pas seulement voir l'église, le FIMES. Je me dis, maintenant, c'est moi, l'artisan, qui doit appliquer, qui doit mettre en œuvre le projet, le plan que Dieu me présente. En le faisant, où est-ce que je manque, où est-ce que je manque de rigueur? Là où Dieu, lui, il a des rigueurs, ai-je manqué des rigueurs quelque part? Lorsque je prépare la parole, est-ce que je me dis non, l'esprit pourvoira, ou est-ce que je prépare quand même le texte en me livrant à l'esprit afin que lui amène ce qu'il doit faire? C'est tous ces aspects vers lesquels, en tout cas, je me tourne et sur lesquels je me pose aussi des questions. J'apprécie énormément tous les commentaires qui ont été présentés jusqu'à présent. Merci.
Merci, merci beaucoup, Papa José. Une question capitale pour nous ce soir en tant que peuple de Dieu. En quel endroit j'ai négligé les mesures de Dieu? Dieu travaille avec les mesures, Dieu travaille avec le temps, Dieu travaille avec les données, Dieu travaille avec les commandements et les promesses. À quel endroit j'ai négligé les mesures? Quand je néglige les mesures, ça signifie qu'il y a des choses que Dieu a dit, ça, c'est ça ou c'est pas ça. Nous avons fait autre chose que ce que Dieu a dit que nous fassions. Et c'est pour cela que ce texte doit nous ramener, nous retourner tous à la parole de Dieu. C'est ça la mesure centrale. La parole de Dieu, je répète, c'est ça la mesure centrale. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tout ce que nous sommes en train de vivre au travail, dans la famille, dans l'église, au sein de FIMES, tout se trouve dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit de faire que nous n'avons pas fait comme il veut? Et nous verrons vers la fin, il va dire, c'est quand vous avez fait comme je veux, que je peux maintenant vous écouter, que je peux maintenant vous recevoir. Et même avant de passer à la deuxième partie, n'oublions pas, frères et sœurs, que notre être entier, notre corps, est le temple. Et dans notre temple, nous devons avoir l'autel avec ses mesures. Et avons-nous négligé l'autel du Seigneur dans le temple, dans notre temple, les lieux où Dieu est élevé, Dieu est exalté, les lieux où nous venons offrir à Dieu, dans notre être, notre corps? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Voilà, je prends une dernière intervention avant que nous puissions attaquer la deuxième partie. Maman Christine, tu as la parole.
Oui, merci, Pasteur Célé, pour la parole. Mais moi, je voulais juste attaquer, disons, la deuxième partie, si vous voulez, papa.
Ok, allez-y.
Oui, je suis au verset 18. Je suis vraiment émerveillée par ce que Dieu dit ici, Fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur. Voici les lois au sujet de l'autel. Donc, c'est-à-dire, il y a l'autel qui sera en construction. Mais on ne servira pas n'importe quoi, n'importe comment plutôt. Il y a des lois qu'on doit respecter pour les jours que la construction, disons, aura lieu. C'est quoi l'objectif? Il y a deux choses, les lois et c'est à quoi l'autel est destiné. Il y a des lois qui sont données et puis on dit enfin d'offrir les holocaustes et puis de répandre le sang. Alors, moi, vraiment, ce qui réjouit mon cœur, c'est que Les lois, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas servir Dieu n'importe comment. Dieu a une façon qu'il aime être servi. Et quand nous suivons sa façon, il est très content. Mais quand nous nous agissons n'importe comment, c'est pour cela, venez à la parole de Dieu, à la méditation, c'est bien de connaître davantage Dieu et pour mieux le servir. Et il va donner l'objectif de l'autel, c'est d'offrir les holocaustes et d'y répandre les sangs. Bien-aimés, j'ai pensé, il y a beaucoup à dire, mais je ne veux pas prendre le temps. C'est juste la grâce que nous avons. Nous n'avons pas des holocaustes à mener, pas de sang à répandre, parce que Jésus, notre Sauveur, a fait ce qui était excellent et complet en amenant son propre sang d'offrir. Et nous, nous pouvons seulement par un simple pardon, demander pardon et nous présenter devant Dieu et les servir comme il le faut. Amen.
Amen. Merci beaucoup d'attaquer cette deuxième partie dans laquelle on nous montre déjà le but pour lequel l'autel sera bâti. Il va y avoir des holocaustes, il va y avoir l'aspersion du sang. Et quand on voit l'aspersion du sang, rappelons-nous comment les Écritures nous disent que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc c'est ce lieu que tout va se faire dans le temple. Le peuple vient et sort du temple changé, différent à cause de ces lieux, à cause de ce que le prêtre va offrir. Merci beaucoup, maman Christine. Quand nous passons au verset 19, nous allons voir maintenant toujours cette loi de connaître suffisamment qu'est-ce qui sera fait dans le temple au sein de cet autel. Il va dire au prophète que tu remettras un jeune taureau comme sacrifice pour le péché aux prêtres qui sont de la postérité de Sadoc et qui s'approchent de moi pour me servir. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Donc là, nous sommes en train de voir encore l'ordre dans le temple. Ce n'est pas n'importe qui allait se présenter pour offrir sur cet autel qui sera bâti. Il faut qu'il y ait des Lévites. Et ces Lévites, ce n'est pas n'importe quel Lévite. Une sélection va encore se faire. C'est les Lévites de la descendance de Sadoc, le prêtre Sadoc qui a servi le Seigneur à côté de David. Rappelons-nous que Sadoc n'était pas seul comme prêtre en train de servir à côté de David. Il y avait aussi Abiathar. Et ces prêtres, la caractéristique de Sadoc, c'est que Sadoc est resté fidèle et au Seigneur et à l'autorité établie. Et rappelons-nous que Abiathar a voulu désobéir à la voix du Seigneur pour appuyer ses fils de David qui voulait prendre le pouvoir de force. Et il était appuyé par le prêtre Abiathar.
Chéri, c'est Absalom qui voulait prendre le pouvoir par force.
Non, Absalom est venu après.
Ok.
Absalom, ça sera après. Mais le prêtre Sadoc est resté fidèle. Il est resté fidèle à David, mais il est resté fidèle au Seigneur.
Amen.
Alors nous voyons, c'est dans sa descendance qu'on va, c'est dans sa descendance que le Seigneur va dire qu'il va sortir de la prêtrise. Et ça, c'est la fidélité de Dieu.
Amen.
Qui fait que même dans la vision, l'Éternel va montrer à Ézéchiel que c'est les Lévites de la descendance de Sadoc. Et ça, c'est beaucoup instructif pour nous. Beaucoup dans le sens que quand nous sommes fidèles au Seigneur, cela peut se répercuter sur nos descendants.
Amen.
Quand nous sommes fidèles au Seigneur, il y a la bénédiction qui se multiplie. J'aimerais pas retenir longtemps la parole. Papa José, tu peux prendre la parole.
Merci beaucoup. En fait, je vais dans le même sens parce que c'est le nom de Sadoc qui me donne à réfléchir. C'est vrai, il fait partie de la descendance de Lévi, et nous savons que tous les Lévites n'étaient pas des sacrificateurs. C'est la branche de Aaron que Dieu avait choisie, et puis ensuite, lorsque ils entraient tous dans la terre promise, certains n'ont pas fait nécessairement ce que Dieu attendait d'eux. Un autre a fait des choses qui ont attiré l'attention du Seigneur. Et puis ensuite, des siècles après, Sadoc est venu, il s'est illustré, nous avons entendu son témoignage, disons, sa fidélité, sa loyauté, etc. Je me dis, sur quoi est-ce que je bâtis ma vie? Sur les exploits de mon ascendance? Où est-ce que je peux aussi aujourd'hui m'illustrer dans le service de Dieu en continuant de démontrer davantage de loyauté et de fidélité à l'égard du Seigneur? Et cette fidélité et cette loyauté, lorsque nous disons que nous le devons au Seigneur, tant que nous ne le démontrons pas aussi à ceux et celles qui sont avec nous, ceux et celles que Dieu a élevés, ceux et celles sur qui Dieu nous a établis, nous ne pouvons pas effectivement être aussi loyaux que nous le souhaitons à l'endroit de notre Dieu. Donc, d'un côté, Sadoc a fait des choses qui ont plu au Seigneur, d'où la promesse de Dieu qui lui a été faite que sa descendance le servira, il continuera de le servir. Parce que si Dieu le dit de manière aussi spéciale, c'est que Sadoc a dû en tout cas plaire au Seigneur. Donc, lui a servi Dieu. Et Dieu lui fait la promesse que ses enfants s'approcheront, continueront de s'approcher de Dieu pour le servir. De l'autre côté, je me dis, la descendance, eux aussi, ils ont l'occasion de faire encore plus aussi. Ils peuvent aller bien au-delà aussi de ce que leur ancêtre a fait, afin de continuer d'être toujours loyal. Aujourd'hui, je peux bâtir sur les acquis des serviteurs, des servantes qui sont avec nous, mais Dieu me donne aussi l'occasion de pouvoir faire encore plus pour que cette histoire continue. Voilà.
Merci, merci beaucoup, Papa José. Vraiment la loyauté, quand nous sommes acquis à un service, avec un serviteur, avec une servante, quand nous sommes dans la maison de Dieu, ne prenons pas toujours du côté de la rébellion, parce qu'il y a toujours des conséquences.
Amen.
Et c'est ça que nous avons vu avec la descendance d'Abiathar, ce sacrificateur, qui était un grand d'ailleurs, sacrificateur, de la descendance d'Élie d'ailleurs, et tout s'est arrêté. Rappelons-nous comment Dieu avait dit à Élie à cause des mauvais comportements de ses enfants que le service ne continuera pas sous sa lignée. Et la parole de Dieu s'accomplit et Abiathar, ça s'arrête et c'est l'autre lignée qui continue à servir le Seigneur avec Sadoc. Donc, vraiment, la fidélité, l'ordre établi, ça compte vraiment beaucoup dans le service du Seigneur. Et tout à l'heure, maman Christine me parlait d'Absalom. Absalom, c'était avant, quand il voulait arracher le pouvoir des forces ici, Abiathar et Sadoc, c'était quand David était vers la fin pour la succession de Salomon.
Amen.
Merci. Je vois encore la main, maman Christine, tu as la parole.
Oui, merci, Pasteur Célé, pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de poursuivre la loi, les instructions que Dieu a données. Il dit, quand il s'agit de la descendance, disons, de Sadoc aussi, de sa lignée, il dit, tu prendras un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu prendras le sang, le sang, et tu en mettras sur les quatre cornes de l'autel, sur les quatre angles de l'encadrement et sur les rebords qui l'entourent, tu purifieras ainsi l'autel quand tu vas faire cela. Bien-aimé, je vois ici, ce sont juste les instructions qu'il faut faire. Là, on n'est pas encore arrivé au point, mais on est en train de purifier l'autel, de travailler, disons, de faire l'expiation pour purifier l'autel. Juste pour dire que le Seigneur veut que le service soit très bien fait dans la sainteté, la sanctification, mais nous devons aussi purifier tout ce que nous utilisons comme instrument. Ici, c'est l'autel qui est déjà, on prépare l'autel. Ce n'est pas encore le temps de sacrifice, mais c'est la préparation. Pour dire que dans tout ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur, nous devons bien préparer. Comme nous sommes en train de faire un camp biblique, la préparation compte beaucoup. La méditation, tout ce que nous faisons pour le Seigneur, il ne faut pas que ce soit un travail bâclé. Nous devons suivre l'ordre. Tout soit purifié. Dieu y tient. La nature de notre Dieu, il est saint. Et quand nous voulons venir dans sa présence, nous devons être prudents à se sanctifier nous-mêmes. Amen.
Amen. La préparation compte beaucoup, frères et sœurs. C'est pour cela que quand nous devons faire le travail de Dieu, la préparation compte vraiment beaucoup. La prière, le temps de prière. Souvent, nous voulons toujours livrer les services sans aucune préparation, sans aucun temps de prière. Nous prenons juste ce que nous connaissons. Nous voulons nous présenter devant le peuple de Dieu. Mais nous devons savoir que la préparation compte vraiment beaucoup. Le temps de prédication peut être de 20 minutes, de 30 minutes, mais le temps de préparation dans la prière doit être des heures et des heures. Et c'est là que nous sommes en train de voir, nous allons voir dans notre texte, ça va faire 7 jours de préparation pour maintenant arriver à livrer le travail dont Dieu est en train d'attendre. Merci beaucoup, mon frère Franck, tu as la parole.
Merci, pasteur, pour la parole. Je suis au verset 23 et 24, où il est recommandé au prophète de pour offrir un jeune taureau en défaut, un bélier du troupeau sans défaut, et ils seront offerts offerts devant l'Éternel. Les sacrificateurs jetteront du sel sur eux et les offriront en holocauste à l'Éternel. Oui, ici je voudrais un peu parler du sel. Et nous pouvons voir cela aussi dans Lévitique 2:11-13, où c'était une alliance, il fallait certaines offrandes les offrir avec du sel. Mais ce que je veux dire sur le sel, nous connaissons que le sel a la propriété de conserver, de garder, de préserver, oui, l'aliment ou quelque chose contre la pourriture ou la dégradation. Et ceci me dit, l'enseignement, c'est que avec le sel, c'est que l'offrande doit continuellement rester acceptable devant Dieu. Et ceci me ramène à ce que Paul dit aux Romains 12, verset 2, pour dire que je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. En tant que temple, nous avons cet altar sur lequel nous devons offrir des sacrifices que moi je regarde comme notre cœur. Et ce n'est pas un problème d'un moment que nous devons aller chez Dieu. Je dis, bon, aujourd'hui, je me suis sacrifié, je me suis sanctifié. C'est fini. Non, la sanctification doit être continuelle et nous devons endurer jusqu'à la fin et demeurer acceptable à Dieu continuellement. Et c'est ce que la leçon que je tire de ces deux versets, la présence du sel. Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais qui puisse encore me détruire ou me dégrader de manière que je ne sois plus acceptable devant Dieu? Comme vous l'avez dit avant, il faut demeurer dans la parole et c'est la parole qui va nous conserver et nous serons toujours acceptables devant Dieu. Amen.
Amen. Merci beaucoup. Nous devons vraiment conserver cette purification. Comme le sel a un rôle très, très important dans la vie courante. Et nous voyons même, pour offrir à Dieu, il a exigé que ses prêtres, ses enfants, ses serviteurs, utilisent du sel. Merci beaucoup, Papa Franck. Papa Thomas, tu as la parole maintenant.
Je suis au verset 19, je suis touché par l'instruction que Dieu donne pour les Lévites. Mes amis, les Lévites, ici, ce sont des gens qui n'ont pas eu d'héritage. Dieu a dit, on ne va pas leur donner. Ils n'ont pas eu d'héritage. Pendant qu'on partageait la terre, les gens, les richesses, c'était la terre. Donc, cette région, c'est pour vous, comme ça, ici, vous avez pas les maisons, les affaires, les champs et tout ça. Mais Dieu avait dit à Nombre 18, 20 à 24, Dieu a dit, tu n'auras pas d'héritage, toi, la maison d'Aaron. Tu n'auras pas d'héritage. Moi, Dieu, je suis ta part et ton héritage. Et Dieu a décidé que il donnait comme héritage au fils de Lévi toute dîme d'Israël en échange du service qu'ils font. Donc, c'est eux qui vont porter les sacrifices dans l'œuvre de Dieu. Le peuple ne va plus aller à la rencontre, mais ce sont les Lévites. Ils vont être au service de l'Éternel et pour de génération en génération. Il dit, je donne comme héritage aux Lévites les dîmes et que les Israélites vont prélever pour l'Éternel. Ils ne vont pas, ils ne recevront pas d'héritage au milieu d'Israël. Et Josué, quand il va partager la terre, mes amis, en Josué chapitre 13, 14, la Bible dit, la tribu de Lévi fut la seule à laquelle on ne donna point d'héritage. Le sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. C'est seulement ça qu'ils ont eu. Le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il l'avait dit. Lui, le Lévite, il n'a rien. Lui, c'est l'Éternel qui est son héritage. C'est la dîme là à l'Église qui le soutient. Je suis touché. Je ne sais pas comment. Est-ce que je suis préoccupé de la vie du Lévite qui, lui, n'a pas d'héritage. Lui, son héritage, c'est seulement ce qu'on donne là à l'Église pour qu'il vive. Est-ce que je suis conscient aujourd'hui de l'homme qui travaille à 100% pour l'œuvre de Dieu? Pour que je le soutienne, je donne, ou bien je suis un militant pour qu'on ne donne, ne donne pas. Aujourd'hui, il y a dans l'Église des militants qui s'opposent, ils ne donnent pas. Mais c'est un militant pour la campagne qu'on ne donne pas. C'est un esprit mauvais. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous aide à voir les yeux que les Lévites. Dieu a dit, on ne lui donne pas de tâches parce qu'il doit vivre de la dîme et de l'offrande qu'on donne au Seigneur. Ça me touche, frères et sœurs.
Merci beaucoup. Est-ce que nous sommes préoccupés à donner pour l'œuvre du Seigneur, donner pour ceux qui sont au service du Seigneur à temps plein pour que qu'ils aient pour la continuité du travail du Seigneur? Voilà, encore là, une interpellation. J'ai deux mains, ce vont être les dernières. D'abord, Papa José des États-Unis et puis Papa José du Canada. Soyez bref pour que nous puissions conclure ce texte.
Merci beaucoup. Bien-aimé, j'aimerais souligner les animaux à offrir. Ils doivent être sans défaut. Au verset 22, un bouc sans défaut. Au verset 23, un taureau et un bélier sans défaut. Au verset 25, un taureau et un bélier sans défaut. Peut-être que il y a aussi d'autres versets qui cachent ces mots. Sans défaut, Dieu ne veut pas des animaux avec des défauts, puisque il est digne, il est digne d'avoir, de recevoir de sacrifices saints. Des animaux en bonne santé, pas des animaux maigres, des animaux qui boitent, des animaux qui ont un seul œil, un autre est crevé, ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous n'avons pas des animaux à donner. Nous donnons à l'Église ce que nous avons. Quelle sorte de qualité, quelle sorte d'argent, de don nature je donne, il faut le faire. Il faut vraiment que ce qui est ici soit aussi appliqué à nous, les hommes modernes, à offrir à Dieu des cadeaux, des dons valables.
Merci, Papa José. C'est tellement capital dans le service de Dieu, frères et sœurs. Nous savons combien l'Église donne aujourd'hui. C'est ce qu'il y a de mauvais et de petit qu'on veut donner à Dieu. En Malachie, je vais lire rapidement un texte qui avait été donné par le Seigneur au prophète Malachie pour instruire son peuple quant à donner. Je suis à Malachie 1, du verset 7 jusqu'au verset 9, trois versets. Il dit, « Vous apportez sur mon autel de la nourriture souillée, et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé ?» C'est en disant, la table de l'Éternel est à dédaigner. Quand vous amenez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en amenez une boiteuse ou même malade, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel désarmé. Et maintenant, implorez donc Dieu pour qu'il nous fasse grâce. C'est de vous que cela vient. Est-ce qu'il va vous faire bon accueil, dit l'Éternel désarmé. Ça, c'est juste pour compléter le partage de Papa José tout à l'heure, quand nous grandissons, frères et sœurs, dans la connaissance de Dieu, nous devons aussi améliorer la qualité de ce que nous donnons à Dieu. La qualité de ce que nous donnons à Dieu. Le temps que nous donnons à Dieu. L'argent que nous donnons à Dieu. Notre façon de nous offrir à Dieu. Nous devons tout améliorer. Parce que Dieu veut qu'on lui donne ce qui est sans défaut. Voilà, frères et sœurs, nous allons arrêter là. Le texte est extrêmement riche. Le dernier verset, nous voyons, après avoir purifié l'autel, que c'est maintenant qu'il faut offrir les holocaustes, les sacrifices complets pour la purification du peuple, les sacrifices d'action des grâces, des communions. Donc, la préparation, la sanctification de l'autel a pris 7 jours que c'est qu'on va offrir à Dieu pour le peuple. Ça doit beaucoup, beaucoup nous instruire parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu saint, c'est un Dieu méticulé. Nous devons respecter la chose sainte, l'homme saint, la place sainte, l'œuvre de Dieu. Nous devons la respecter et ne rien négliger quand il s'agit de servir ce Dieu. Voilà, nous allons nous arrêter là. Nous n'allons pas lire les commentaires dans le pain du jour. Nous pouvons les lire seuls dans notre pain du jour. C'est pour cela qu'il est demandé à tous les membres de FEMES, quand c'est le moment d'acheter le pain du jour, nous devons tous l'acheter parce que c'est un matériel de travail pour nous. Nous saluons les frères et sœurs qui sont à la radio depuis le Québec, Alberta et Massachusetts. Soyez bénis. L'écran de Cauliflower, on nous dit que c'est jour J-51. Donc, pour dire, nous devons accélérer aussi dans le préparatif pour le camp, ces lieux de rassemblement, ces lieux où Dieu va réellement toucher nos vies, nous parler d'une manière particulière. Voilà. J'aimerais rapidement donner le texte de demain. Je crois que demain, nous allons rapidement, j'ouvre mon...
Psaume 43.
OK. Donc, demain, c'est le psaume 43. Nous pouvons déjà méditer seul afin que nous ayons de quoi partager avec les autres. Psaume 43, tous les psaumes. Alors, les questions 2 et 3 vont nous aider à approfondir la méditation. Je vais demander à notre frère Franck de prier pour nous recommander la grâce du Seigneur.
Et prions. Tendre Père et Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants de ce que Dieu, dans ton amour et ta miséricorde que tu as pour nous, Papa, tu continues à nous enseigner. Tu continues, Papa, à nous équiper. Et tu nous veux, Papa, être saint comme tu es saint. Et la sanctification ne peut venir qu'au travers de ta parole. Et aujourd'hui, encore une fois, nous avons vu dans ce texte comment nous devons marcher dans la sanctification, comment nous devons nous garder, nous préserver, afin d'être acceptables à toi. Nous te disons merci et nous prions que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous puissions être de ceux qui, quand nous écoutons, quand nous apprenons, nous mettons en pratique pour que le changement soit visible. Merci, Père éternel, d'avoir utilisé ton serviteur. Merci, éternel, pour tous ceux qui ont été branchés cet après-midi, ceux qui sont à la radio comme ceux qui sont sur le plateau. Papa, nous te disons merci et nous prions que le Saint-Esprit, qui est l'enseignant par excellence, le Saint-Esprit qui est avec chacun de nous, qui nous aide, qui nous assiste à ce que nous puissions, Papa, continuer à chercher la sanctification. Et nous voulons, Papa, recommander, Papa, le camp biblique qui se tiendra dans 51 jours. Nous prions éternellement de mourir que tu puisses toucher chacun, que le Saint-Esprit puisse continuer à nous le rappeler, afin que nous puissions participer, Papa, et contribuer afin que ce camp biblique soit une réussite et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Merci, Père éternel, et nous prions que tu bénisses chaque famille, Papa, qui a été connectée ce soir, et que tu te souviennes éternellement de moi, de ceux qui sont malades, et nous prions, Papa, que tu tendes ta main et tu touches et tu guérisses. Que ceux qui ont des besoins éternellement de moi matériels, que tu puisses pourvoir. Que ceux qui se sentent en danger, éternellement de moi, que ta main protectrice soit sur chacune d'elles. Et éternel du Tout-Puissant, que toute la gloire te revienne. Nous venons ainsi de prier, dans le nom glorieux, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et nous disons Amen.
Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Franck, pour hier. Peuple de Dieu, que la grâce de Dieu abonde dans nos maisons. Et que la paix de Dieu nous accompagne dès maintenant et à jamais. Amen.
Amen.
Amen.